Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Les 20 et 27 juin, ce sont les élections départementales. Les candidats des différents partis sont venus dans nos studios.
Une journée pour parler de la gestion de l'eau dans l'agriculture au lycée des Sardières, nous étions sur place.
Des activités pour créer du lien dans le quartier de la Croix-Blanche, reportage.
Et votre actualité locale en bref.
Bourque, en bref.
Le vaccinodrome a ouvert ses portes à Interexpo.
Depuis le 1er juin, pour se faire vacciner, c'est à Interexpo et plus au gymnase Saint-Roch à Bourg-en-Bresse. Le lieu a été inauguré par la préfète de l'Ain, Jean-François Debat, président de l'Aglo, qui a laissé à disposition Interexpo, la directrice du centre hospitalier de Bourg et la directrice de l'ARS de l'Ain. Le lieu peut accueillir jusqu'à 18 lignes de vaccination. Ce vendredi, tous les créneaux étaient réservés. Catherine Malbos, directrice de l'ARS de l'Ain, nous explique pourquoi ce changement de lieu est nécessaire.
La décision d'ouvrir un plus grand centre sur Bourg-en-Bresse, elle répond à trois objectifs. Le premier, c'est de pouvoir garantir pendant tout l'été des conditions de travail pour les professionnels qui réalisent la vaccination, des conditions favorables à une meilleure conservation aussi des médicaments. Si la température progressait, l'installation à Saint-Roch était problématique puisqu'il n'y avait pas de climatisation. Donc il y a tout le contexte du confort, et puis y compris pour les personnes qui viennent se faire vacciner. C'est quand même important d'être mieux accueilli et d'être accueilli dans de très bonnes conditions. Donc, regardez, il y a tout un contexte matériel lié aussi quelque part à la qualité de la prestation qui est offerte. Et puis après, il y a un deuxième enjeu, c'est que les centres dans les départements vont fonctionner tout l'été, doivent avoir une capacité à s'adapter aux fluctuations d'allocation des ressources, c'est-à-dire que si on a une progression encore de doses vaccinales qui nous arriverait, il faut être capable de mettre en place très rapidement des chaînes de vaccination supplémentaires, et donc le dispositif qui est ici organisé permet finalement une variabilité par rapport à des créneaux journaliers qui peuvent être offerts. Donc il y a aussi l'idée de mieux répondre à une augmentation potentielle de la demande de vaccination, puisque comme l'a rajouté Madame la préfète il y a quelques instants, on voit que la population peut-être encore besoin d'être convaincue de l'intérêt d'adhérer à cette vaccination pour que progressivement, effectivement, on ait une forme d'immunité collective dans notre département face à ce virus. Et puis bien évidemment, parce qu'on a de plus en plus de doses vaccinales à injecter, donc c'est important de ne pas conserver cela dans les frigos, mais au contraire, de bien les utiliser pour la population. Donc c'est un petit peu tous ces objectifs-là qui ont fait que pouvoir bénéficier d'une installation plus spacieuse, plus confortable et plus adaptable dans le temps, c'était important.
Pour Catherine Malbos de l'ARS de l'Ain, l'objectif est de vacciner au moins 80% de la population du département dans l'été. 350 000 injections ont été faites dans l'Ain, c'est un peu plus de la moitié de la population. La préfète invite aussi les Indinois à venir se faire vacciner et surtout les 50-60 ans qui sont moins vaccinés dans le département par rapport à la moyenne régionale. Des places sont toujours disponibles, vous pouvez réserver un créneau sur la plateforme Maya. Les adolescents de 12 ans et plus pourront aussi se faire vacciner à partir du 15 juin. Il faudra l'accord des parents. L'objectif, protéger les aînés et limiter la propagation du virus, même si les ados ne font pas de forme grave du Covid-19.
Plusieurs manifestations dans les rues de Bourg-en-Bresse la semaine dernière.
Le 3 juin, les accompagnants d'élèves handicapés ont manifesté pour demander un vrai statut. L'intersyndicale FO, FSU, CGT et la Fédération des parents d'élèves dénoncent un manque de reconnaissance de leur travail et veulent le statut de fonctionnaire. Il y a 1000 accompagnants dans l'Ain, un nombre qui ne suffit pas aux besoins des élèves selon les syndicats. Et le même jour, les soignants manifestaient à l'appel de la CFDT Santé Sociaux. Ils demandent l'ouverture du Ségur de la Santé aux salariés du privé associatif. Ils n'ont pas pu bénéficier de la prime de 183 euros comme leurs collègues du public.
Mardi 1er juin s'est tenue une journée thématique intitulée « Hello demain ».
Organisée par le syndicat du bassin versant de la Ressouze, en association avec le lycée agricole des Sardières, elle a réuni les professionnels du monde agricole et les élus afin de promouvoir les actions locales préservant la qualité de l'eau. Alice, notre stagiaire, était sur place.
La Ressouze, tous les Burgiens la connaissent. Cette rivière familière est un des piliers de l'agriculture locale. Et pourtant, elle est victime des pratiques agricoles parfois trop polluantes. C'est pour ça que depuis plusieurs années, la baignade n'est plus autorisée. La préservation de la Ressouze et plus généralement des ressources aquatiques représente un enjeu fondamental pour l'agriculture de demain. Les élèves du lycée agricole des Sardières se sont emparés de ce sujet. C'est le cas de la classe des secondes, option écologie, agronomie, territoire et développement durable. Ils ont travaillé tout au long de l'année sur la Ressouze et la pollution de ses eaux.
Au niveau de la Ressouze, est-ce que vous avez pu identifier des problématiques qui la concernaient ?
Par exemple, les pesticides, c'est quelque chose qui nuit à l'eau et au bon fonctionnement de l'écosystème.
En plus des pesticides, il y a aussi les engrais, comme les engrais azotés et phosphatés, qui, s'ils sont trop surdosés, ils peuvent causer des pollutions. Et aussi il y a l'épandage naturel, tout ce qui est lisier, épandage. S'il n'est pas absorbé par la plante, pareil, il peut polluer l'eau, ce qui va faire trop haute concentration de nitrates, ce qui va créer des algues dans l'eau. Et les poissons, tout l'écosystème vivant dans l'eau risque de mourir. Et c'est là que ça fait une grosse pollution importante.
Pensez-vous du coup qu'il faut revoir les pratiques agricoles pour modifier ces comportements et essayer de protéger la Ressouze ?
Après tout, les agriculteurs ne polluent pas l'eau. C'est une grande partie sont responsables, mais il reste quand même certains qui mettent par exemple trop de fumier ou de pesticides. Et du coup, cet excédent va se retrouver dans l'eau après qu'il y ait de la pluie ou des trucs comme ça. Et la plante n'aura pas tout absorbé, ce produit. Et c'est là que ça va polluer. Mais une grande partie est quand même responsable.
La question de la gestion des ressources est aujourd'hui une thématique dominante dans le monde agricole. Frédéric Dornet, professeur encadrant des secondes au lycée des Sardières.
De plus en plus, on est confronté à des ressources qu'on sait en danger ou qu'on sait qu'il faut protéger. Et ça fait partie vraiment maintenant des enseignements, j'allais dire, entre guillemets, obligatoires, de comprendre quels moyens de futurs agriculteurs ou de futurs techniciens ou de futurs citoyens, tout simplement, doivent prendre en compte la ressource et quelles actions ils peuvent faire pour limiter leurs impacts.
La Ressouze est une ressource clé pour l'agriculture bressane. Face à la pollution de ses eaux, le syndicat du bassin versant de la Ressouze a été créé en 1956. Au travers de ses actions, le groupe contribue à la défense et à la protection de la rivière, comme nous l'explique Romane Houdin, chargée de mission au syndicat.
Alors nous, au sein du syndicat du bassin versant de la Ressouze, on va plutôt s'attarder sur tout ce qui est lié donc, à la morphologie de la Ressouze. Donc la Ressouze a été beaucoup curée. Dans les années 70-80, a été beaucoup aménagée par l'homme. Et nous, ce qu'on va essayer de faire au niveau de la Ressouze, ça va être de permettre qu'elle retrouve sa fonctionnalité, une dynamique plus naturelle, en restaurant peut-être ses zones humides, les annexes de la Ressouze, et puis en essayant de recréer donc une Ressouze plus dynamique.
Sera-t-il possible un jour de se rebaigner dans la Ressouze ?
On l'espère. Alors, ce sera pas cette année ni l'année prochaine, mais on l'espère.
Merci à Alice, notre stagiaire.
Là, à son routard.
Le célèbre guide touristique propose sa première édition sur notre département. Elle est mise en vente cette semaine à partir du 9 juin.
Le 9 juin, réouverture de Carré d'eau.
L'espace intérieur seulement dans un premier temps, puis l'extérieur début juillet, avec une capacité de 350 personnes. Le 9 juin, c'est aussi l'allongement du couvre-feu à 23h et l'augmentation des capacités dans les salles de spectacle et de cinéma. Les restaurants et bars peuvent aussi accueillir en intérieur en jauge réduite.
Voie verte, les travaux débutent à Bourg.
À partir de ce lundi 7 juin, près de 4 km vont être aménagés pour les vélos entre l'avenue de Marbeau et l'avenue Amédée-Mercier, un itinéraire qui longe la Ressouze. Mais en attendant la fin des travaux, les sections aménagées ne sont pas toujours accessibles. Les travaux vont s'étendre jusqu'en novembre.
Un spectacle qui vous en mettra plein la vue.
Le théâtre de Bourg-en-Bresse accueille cette semaine la compagnie 32 novembre. Elle propose son nouveau spectacle de magie performative intitulé « À vue ». C'est à partir de 10 ans, à voir le mardi 6, le mercredi 7 et le jeudi 10 juin à 20h.
Une belle victoire pour les Violets de l'USBPA.
L'équipe de rugby burgienne, déjà assurée de monter en Pro D2, a vaincu Narbonne 26-16. Ils sont désormais sacrés champions de France de national.
Et la JL Bourg s'est imposée face à Monaco.
L'équipe de basket de Bourg a gagné 94-86 ce week-end. La première victoire de leur histoire contre Monaco en Jeep Elite. L'absence d'Alain Omic ne les aura pas empêchés de remporter le match face aux Monégasques. Prochaine étape, les quarts de finale.
2 minutes, une actu.
Les 20 et 27 juin prochains, ce sont les élections départementales et régionales. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le rôle des conseillers départementaux. Inès.
Le département, c'est une collectivité locale qui est dirigée par un conseil départemental. Et dans quelques jours, vous allez voter pour 2 candidats, un homme et une femme, par canton, pour choisir vos conseillers départementaux. Seul un des binômes sera élu par canton.
Alors, quelles sont les compétences des conseils départementaux ?
Il y a 6 grandes thématiques. L'aide sociale et avec la protection de l'enfance et le revenu de solidarité active, le RSA, qui représentait 28% des dépenses en 2011. Les routes et déplacements, c'est 9% du budget. L'enseignement, avec la gestion des collèges et le transport des élèves, 8% du budget. La sécurité incendie, pour 4% du budget. L'aménagement des territoires, avec la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels, c'est 6% du budget. Et enfin, la culture, la sauvegarde du patrimoine, sa valorisation avec les musées et les archives. Et c'était 3% des dépenses en 2011.
Combien y a-t-il de conseillers départementaux ?
Ils sont un peu plus de 4000 en France. Ils sont élus pour 6 ans, mais cette année, c'est particulier. Les conseillers seront élus pour 7 ans. Les prochaines élections seront en 2028 pour ne pas perturber la présidentielle.
Et quelle est l'orientation politique de ces conseils ?
Sur les 95 conseils départementaux, pour l'instant, la majorité est à droite, environ 60, et on compte 30 de conseils à gauche. Ce sont les dernières élections avant la présidentielle de 2022. Les départementales et les régionales vont donc permettre de sentir un peu quels sont les partis favoris des Français. Même si ces élections ont un fort taux d'abstention, en 2015, il était de plus de 50% pour les départementales.
L'invité de Radio B.
Nous avons reçu séparément les candidats aux départementales venant des différents bords politiques. Alors nous accueillons aujourd'hui Isabelle Mestre et Patrick Bouvard, candidats de l'Un pour tous pour le canton de Bourg 2, Bourg Sud, Perona, Saint-Rémy et Saint-Denis-les-Bourg. Bonjour Isabelle Mestre.
Bonjour.
Alors est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots votre métier et vos fonctions actuelles ?
Je suis Isabelle Mestre, j'ai 34 ans, je suis première adjointe à la ville de Bourg-en-Bresse depuis l'année dernière, adjointe depuis 2014 auprès de Jean-François Debat, également présidente de Bourg Habitat depuis l'année dernière également, j'habite évidemment Bourg-en-Bresse, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et engagée pour ma ville, pour mon agglomération depuis plusieurs années. Je suis candidate avec Patrick Bouvard sur le canton de Bourg 2 pour porter les valeurs et les projets de solidarité et de transition écologique pour le canton de Bourg 2 et le département.
Patrick Bouvard, bonjour.
Bonjour.
Alors pareil, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Eh bien, Patrick Bouvard, j'ai 58 ans. Je suis adjoint au maire de Saint-Denis-les-Bourg depuis 2014, en charge de l'urbanisme et des travaux. Depuis 2020, je suis aussi conseiller communautaire. Dans le privé, dans la fonction professionnelle, je travaille à la SNCF. Et j'ai 2 enfants qui ont 30 ans et 28 ans.
Nous accueillons Hélène Cédillo, candidate l'un de toutes nos forces pour le canton de Bourg 2, Bourg Sud, Perona, Saint-Rémy et Saint-Denis-les-Bourg. Bonjour Hélène Cédillo.
Bonjour.
Donc présentez-vous en quelques minutes votre métier et vos fonctions actuelles.
Oui, donc je suis Hélène Cédillo, je suis informaticienne dans une collectivité territoriale et je suis élue, je suis maire de Perona depuis ce dernier mandat, j'étais adjointe auparavant. et je suis candidate sortante puisque j'étais vice-présidente du conseil départemental en charge des sports. Je me présente sur le canton de Bourg 2 que vous venez de citer avec Pierre Lurin, qui est lui également vice-présidente du conseil départemental en charge des finances sortant et qui est chef d'entreprise. Voilà.
Nous accueillons Jérôme Buisson, candidat Rassemblement National pour le canton de Céséria, avec son binôme donc Brigitte Pirou-Gianotti. Bonjour Jérôme Buisson.
Bonjour.
Donc présentez-vous en quelques mots votre métier et vos fonctions actuelles.
Voilà, donc je suis Jérôme Buisson, je suis enseignant en collège et lycée sur la ville de Bourg-en-Bresse. Je suis responsable du Rassemblement National de l'Ain depuis maintenant quelques années. Et je suis aussi en charge donc de l'organisation des élections départementales et régionales, car c'est une année double cette année, même si j'ai délégué quelques tâches à certains des cadres de ma fédération.
Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur votre binôme aussi qui n'est pas là ?
Oui, Madame Pirou Gianotti Brigitte, donc est une militante de longue date. C'est la première fois qu'elle se présente aux élections. C'est une femme qui est à la retraite, mais qui est très active dans la vie, qui fait partie de beaucoup d'associations et qui laboure le territoire de l'Ain en long, en large et en travers.
Donc les 20 et 27 juin, les Indinois vont choisir leurs conseillers départementaux. Alors pour les aider à se repérer parmi les différents candidats, nous avons choisi trois grandes thématiques. L'action sanitaire et sociale, l'aménagement du territoire et la culture. Dans ces trois thèmes, chaque binôme va développer une ou deux mesures qu'il souhaite mettre en place s'il est élu. Alors Isabelle Metz, Patrick Bouvard, quelles mesures vous voulez appliquer dans l'action sanitaire et sociale pour le département de l'Ain ?
Une de nos propositions phares, c'est de faire en sorte qu'il y ait sur notre canton et dans le département plus de médecins. Aujourd'hui, près de 20, quasiment 25% pour les plus modestes d'entre nous, des Burgiens n'ont pas de médecin traitant. Et depuis maintenant plusieurs années, depuis 2015, il y a une baisse importante dans l'Ain du nombre de médecins. La situation n'est plus acceptable et nous sommes face à un phénomène de désertification médicale qui s'empire d'année en année. La seule réponse apportée par l'équipe actuelle de droite, c'est l'installation de cabines en visio. Alors l'installation de télécabines, ça peut être une mesure complémentaire, mais en rien une pratique de base pour un accueil de patients et un accompagnement personnalisé de patients. Si vous me permettez cette analogie médicale, c'est un peu comme si on demandait à Dr House d'arrêter une hémorragie cérébrale avec un bout de sparadrap. Les télécabines, c'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant. Notre proposition, elle est donc simple, c'est d'arriver à faire en sorte que sur les territoires où nous en avons besoin, et notamment la ville de Bourg-en-Bresse, on salarie des médecins. Notre proposition, c'est 50 médecins salariés, dont le financement du salariat s'équilibrerait avec les honoraires. D'autres départements l'ont fait, des départements voisins comme la Saône-et-Loire. Il n'y a pas de raison que le département de l'Ain n'y arrive pas.
Donc Hélène Cédillo, quelles mesures vous voulez voir appliquées dans l'action sanitaire et sociale pour notre département ?
La caractéristique du département de l'Ain, c'est qu'on a une forte démographie avec environ 6000 habitants de plus chaque année. Donc des mesures à prendre sont nécessaires parce qu'il faut gérer et il faut aussi anticiper les besoins. Donc il y a bien évidemment des mesures au niveau départemental. Sur le plan handicap par exemple, ce sera une véritable cause départementale avec un plan d'action concret, notamment contre l'autisme, contre les troubles dys. Nous avons la volonté de créer un centre d'accueil pour autistes sur le département de l'Ain. Nous devons aussi continuer notre plan handicap pour favoriser l'autonomie, l'inclusion, l'emploi des personnes en situation de handicap. Et à ce sujet, on doit dire que le département donc, est en tout cas dans la fourchette puisqu'il emploie 6% de salariés handicapés, et ce qui lui permet de ne pas être pénalisé à ce niveau-là. Puis il y a aussi un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, c'est la démographie médicale. Bon, nous allons plutôt nous orienter vers un plus grand nombre de maisons de santé. Aujourd'hui, le département de l'Ain est très bien pourvu, puisque c'est le premier département de l'Ain qui dispose d'autant de maisons de santé. Nous allons aussi recruter des médecins salariés, mais là, en association avec l'ARS, 8 recrues sont en cours avec des aides de l'État. Nous avons créé des cabines de télémédecine. Nous allons encore développer ces cabines de télémédecine qui sont réparties sur tout le département. Nous avons le projet aussi de création d'une maison départementale de la santé pour accompagner l'installation de ces nouveaux médecins, parce que bien évidemment, il faut avoir un département attractif pour que ces médecins viennent s'installer dans l'Ain. Il faut travailler dans plusieurs horizons, et donc l'attractivité du département en fait partie. Et puis, nous avons obtenu, et ça c'est une véritable avancée, une première année de médecine qui sera basée sur Bourg-en-Bresse. Voilà, je pense qu'au niveau de l'action sociale et de la solidarité, c'est un sujet très important sur notre département. Et nous avons été présentes, mais nous serons encore présents dans les 6 ans à venir.
Jérôme Buisson, quelles mesures vous voulez voir appliquer dans l'action sanitaire et sociale pour notre département ?
Voilà, alors en préambule, je voudrais juste dire que notre programme sera au service des Indinois en priorité et que chaque euro dépensé sera pour eux une priorité. Le département qui est en charge de régler la facture des jeunes migrants, soi-disant mineurs isolés, semble parfois l'oublier. L'argent public se fait rare, les Indinois sont de plus en plus taxés et voient de moins en moins les résultats de leur effort, cela doit changer. Donc en ce qui concerne l'action sanitaire et sociale, nous avons plusieurs points sur lesquels nous aimerions apporter des améliorations. C'est d'abord améliorer la relation personnalisée avec les usagers. Le département a créé un service téléphonique, Insolidarité J'écoute, pour mieux répondre à l'évolution des besoins des usagers. Mais cette mise en place n'est pas suffisante, bien sûr, c'est un peu... Ce service téléphonique est beaucoup trop léger. Et la relation avec les usagers doit être un contact humain, selon nous. Il va falloir donc embaucher pour pouvoir pallier à cette écoute téléphonique. La proximité doit être renforcée. Nous proposons de passer de 60 lieux d'accueil du public à 80, car les services du département doivent proposer plus souvent des rendez-vous aux usagers au plus près de leur domicile, ce qui n'est pas encore le cas. Le département, enfin, doit lutter efficacement contre la désertification médicale. C'est un point important des généralistes, comme des spécialistes d'ailleurs. Les maisons de santé doivent fleurir un peu partout sur le département. Nous ne sommes pas favorables à salarier des médecins, cela doit rester l'exception. Ce n'est pas le rôle du département que de salarier des médecins. Les cabines médicales, dont la majorité actuelle se fait chantre, sont un palliatif temporaire. J'espère que la pénurie ne sera pas compensée uniquement par des cabines médicales. Et bien sûr, dernier point, le contrôle plus strict aussi de la fraude sociale. La majorité actuelle, LR, qui est plus connue pour leur laxisme que pour leur sévérité, déclare avoir trouvé 1 million de fraudes sociales sur leur mandat. Imaginez combien nous pourrions nous débusquer de fraudes sociales si nous étions au pouvoir. Je pense que c'est possible d'en découvrir 2 à 3 fois plus.
Autre thématique, l'aménagement du territoire. Quelles mesures vous voulez mettre en place ? Patrick Bouvard.
Alors pour l'aménagement du territoire, nous ce que l'on voudrait, c'est offrir aux Indinois de nouvelles possibilités de se déplacer. Voilà, clairement, nous souhaitons réaliser des pistes cyclables aux abords des routes départementales. Pas forcément, de Trévoux au Pays Gex, mais c'est de prendre des communes qui sont assez proches. Mais vous avez Ambérieu-Lagneux, vous avez Bourg-Césaria, par exemple. C'est des endroits où les gens recherchent la possibilité d'aller travailler en vélo. Et il leur faut une piste cyclable. Pour revenir plus concrètement sur notre canton, nous, ce qu'on voudrait, c'est réaliser des aménagements sur les pénétrantes. L'avenue de Lyon à Perona, elle va être, il faut qu'on l'aménage pour sécuriser cette avenue. Il y a une création d'une piste cyclable entre Saint-Denis, qui traverse presque notre canton, entre Saint-Denis, Saint-Rémy, et qui va jusqu'à Corgenon. Il y a aussi quelque chose dont la droite en parle depuis un moment, c'est le réaménagement du chemin des coupes blanches. Le but, ce n'est pas de couper la forêt de Seillon en deux en faisant une autre rocade. Le but, c'est de sécuriser cette traversée et que l'on puisse y aménager des cheminements piétons. On a beaucoup de cavaliers là-bas et des cycles pour améliorer la sécurité des usagers.
Hélène Cédillo.
Alors là encore, sur l'aménagement du territoire, nous avons un plan d'aménagement plutôt départemental. Il faut savoir que le département de l'Ain est le premier partenaire des collectivités en termes d'aménagement du territoire. Ce sont des contractualisations avec les communes et les intercommunalités pour les accompagner, pour les soutenir financièrement à développer, à créer des nouveaux équipements sur leur territoire. Mais bien évidemment, c'est aussi au niveau de l'aménagement du territoire le développement des routes, puisque c'est une compétence aussi que nous avons au niveau du département. Et puis la valorisation de notre patrimoine naturel, là aussi on a beaucoup travaillé, il faut encore travailler. Nous avons créé plusieurs espaces naturels sensibles, nous sommes passés de 32 espaces naturels sensibles à 40 en 4 ans. Donc voilà, il faut travailler sur cette attractivité encore de l'aménagement du territoire. Et puis peut-être au niveau plus local, sur notre canton, ce sont aussi des projets très importants de requalification, d'attractivité. C'est par exemple sur le secteur du pont de Lyon, avec le site de l'ESPE, hein, la volonté ici d'y accueillir les archives départementales qui devront être déménagées, pour un meilleur accueil des employés, mais aussi de la population. Il y aura de véritables réserves qui seront visitables. C'est aussi l'aménagement sur ce pont de Lyon de l'ancienne brasserie. Nous voulons redynamiser cette entrée de ville, en faire un lieu aussi d'accueil, essayer d'éviter de mettre que des logements, mais faire un véritable lieu de vie à proximité de la gare. Et puis, il y a également... Le maillage, la continuité du développement des modes doux, des pistes cyclables, des voies vertes. Il y a aussi l'aménagement dans ce cadre-là de la route de Trévoux qui est sur notre canton. Et puis encore sur notre canton, une véritable question qui nous est posée à chaque fois que nous rencontrons des habitants, c'est le bouclage de la rocade de Bourg-en-Bresse et notamment la rocade sud. Donc nous allons effectivement, au cours de ces 6 années, si nous sommes élus, travailler sur ce projet d'envergure attendu pour la sécurité et pour l'attractivité là aussi de notre territoire.
Jérôme Buisson.
Le département de l'Ain est un département jeune et dynamique qui gagne en population et il a besoin d'investissements structurants. Et je pense tout d'abord à notre jeunesse qui a beaucoup souffert des confinements successifs. Il faut leur permettre de reprendre un bon départ tout de suite après cette crise terrible de la Covid qui les a isolés. Donc il faut mettre le paquet sur les infrastructures sportives, si vous me permettez l'expression, la création, la rénovation de l'existant. Une deuxième mesure assez simple à comprendre, c'est augmenter le chèque sportif qui existe, de le passer de 25 à 70 euros pour permettre à cette jeunesse de reprendre possession des extérieurs et des équipements sportifs.
Et donc, dernière thématique, la culture. Qu'est-ce que vous proposez pour le département, Isabelle Mestre?
Depuis plusieurs mois, avec la crise, la culture a été mise entre parenthèses. Et malgré tout le travail par un grand nombre de compagnies et d'artistes, eh bien, la diffusion n'a pas pu avoir lieu, mais malgré tout, de la création a pu avoir lieu. Et donc, nous pensons qu'il est important aujourd'hui de pouvoir proposer des espaces de diffusion aux créations qui ont été produites, ce qui permettra, nous l'espérons, de pouvoir faire vivre les artistes qui ont été vraiment en grande difficulté ces derniers mois et tous les professionnels de la culture qui entourent les créations et la diffusion du spectacle vivant. Alors très concrètement, le département doit proposer des espaces et des temps de diffusion du spectacle vivant à tous les échelons, grand public, public spécifique comme les aînés, puisque le département a la compétence notamment personnes âgées, à des collégiens. Il faut que l'on arrive à des moments, des structures éphémère, on pourrait dire, de la création, de la diffusion du spectacle vivant. Le soutien financier est important, mais il doit s'accompagner d'espaces de diffusion. Et puis une proposition aussi très pragmatique, c'est une aide financière pour chaque jeune à chaque rentrée scolaire, d'une aide de 150 euros pour la pratique sportive ou culturelle, ce qui permettrait une découverte et une ouverture culturelle pour chaque jeune qui aurait un frein financier à cette pratique.
Hélène Cédillo.
Alors la culture, c'est aussi effectivement un sujet important pour notre territoire et pour notre canton. Là encore, nous avons des compétences obligatoires autour de la bibliothèque départementale et du prêt de livres auprès des 258 bibliothèques de notre département. Mais ce sont aussi, et je l'ai dit, le déplacement des archives départementales avec la construction de nouvelles archives. Et puis c'est la continuité du développement du schéma de développement des enseignements artistiques. Donc ce sont des soutiens à tout ce monde culturel et artistique. Soutien en manifestation, c'était très difficile ces derniers temps, mais on va continuer à les aider. Et là encore, au niveau local, nous avons des projets bien précis, outre le déménagement des archives sur le site de l'école normale, je vous l'ai dit. Mais c'est aussi un projet d'accompagnement de la labellisation du théâtre de Bourg-en-Bresse en théâtre national. Donc ce qui permettra au théâtre de lui allouer de nouveaux moyens, d'avoir une reconnaissance aussi nationale et encore une fois de faire l'attractivité de notre territoire. Et puis nous aurons aussi un point de vigilance cette fois-ci sur la requalification du site de l'Hôtel Dieu. C'est un site remarquable avec une vraie identité et nous souhaitons que ce site conserve cette identité historique et patrimoniale.
Jérôme Buisson.
Créer un pass culturin à Yenne, avec le jeu de mots, de 50 euros. Ce pass a pour avantage d'être non délocalisable, puisqu'il pourra être dépensé seulement dans l'Ain et dans les associations et commerces de l'Ain, ce qui permettra aussi donc, de soutenir les associations, le tissu associatif local et les commerces locaux de l'Ain. Il faudra bien sûr soutenir l'identité de nos territoires. Le département de l'Ain a une identité forte à défendre. Le tourisme est une des ressources non délocalisables, et j'insiste parce que nous sommes maintenant effectivement dans une concurrence bien sûr nationale, mais une concurrence européenne et mondiale. Et le tourisme est une des rares choses qu'on ne peut pas délocaliser, qu'on ne peut pas nous prendre. Le Revermont restera toujours là, le parc aux oiseaux restera toujours dans l'Ain. Et donc, il faut renforcer tout ce qui peut promouvoir la culture dans l'Ain. Bien sûr l'existant, poursuivre les infrastructures et la communication dans les médias pour attirer le plus de touristes étrangers quand les frontières réouvriront.
C'était Jérôme Buisson, candidat Rassemblement National pour le canton de Céséria, en binôme avec Brigitte Pirou-Gianotti. Hélène Cédillo, candidate l'un de toutes nos forces pour le canton de Bourgdeux, en binôme avec Pierre Lurin. Et Isabelle Mestre et Patrick Bouvard, candidat l'un pour tous pour le canton de Bourgdeux. Les élections départementales, c'est les 20 et 27 juin, en même temps que les régionales. Et nous ferons le point sur les régionales lundi prochain, le 14 juin.
Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ce matin ?
Ce matin, entretien de vélo, changement de chaîne, nettoyage de transmission.
On va d'abord commencer par faire la bague. D'accord ? Vous voyez là derrière, au fond, loin, il y a une bague.
En reportage avec Radio B.
La semaine dernière, dans le quartier prioritaire de la Croix-Blanche à Bourg-en-Bresse, des animaux se sont invités à côté de l'école Alphonse Daudet. Ils viennent de la ferme ambulante Letty's Animaux, basée à Saint-Cyr-sur-Menton. Aussi sur place, un atelier vidéo avec Maxime Noyon. Des activités insolites proposées par les éducateurs du quartier en collaboration avec l'association 98 décibels.
Allez, vas-y.
Et tu pousses. Parfait. Et tu mets ton autre pied dans l'étrier.
Hop là, super.
On est bien installé ?
Ça va ?
Allez, c'est parti.
Je suis Laetitia Berthier, j'ai une ferme à Saint-Cyr-sur-Menton.
Donc expliquez-nous un peu, c'est quoi le concept de cette ferme pédagogique ? Qu'est-ce que vous faites ?
Alors en fait, j'emmène tous les animaux qui sont là, chèvres, moutons, lapins, poules, canards, j'emmène mon poney aussi. Donc les enfants rentrent dans les parcs, caressent, brossent. De temps en temps, ils donnent à manger quand ils ont faim. Les enfants, ils aiment bien. Après, ils brossent le poney, ils montent sur le poney. Voilà.
C'est relaxant de faire du poney, parce qu'on n'a pas l'habitude d'en faire tous les jours. Et surtout parce que c'est amusant.
Et donc, toi, t'as déjà fait du poney avant ?
J'ai pas fait du poney, mais j'ai fait de l'âne. Donc, c'est presque pareil, mais sauf que l'âne va plus vite.
Et tu penses quoi du fait qu'il y ait plein d'animaux aujourd'hui ?
Bah, c'est cool parce qu'il n'y a jamais eu d'animaux dans le quartier. Ouais, c'est drôle. À part du poney, mais c'était la fête du quartier.
C'est pas souvent, quoi.
Ouais, c'est pas souvent. C'est rare, mais oh, vraiment rare.
Ça fait longtemps qu'on a, on n'a pas fait la fête du quartier, donc
c'est
à cause du Covid. C'est trop bien maintenant.
Ça fait du bien. Moi, j'aime bien les animaux dans le quartier. Même les enfants, ils veulent regarder, ils sont contents. Ça fait du bien. De temps en temps, comme ça fait du bien.
Je pense que c'est une très bonne initiative, surtout au sein des quartiers un peu défavorisés. Voilà, et donc de les faire découvrir les animaux de la ferme. Mais chez eux, finalement. Il n'y a pas de déplacement, c'est pas l'inverse. Puisque les enfants, ils aiment bien en général les animaux. Ils sont très attirés.
N'y est pas fermé.
Moi, c'est Sarah Morel, du coup, je suis éducatrice en prévention spécialisée. Du coup, je bosse sur le quartier de la Croix-Blanche, les Vennes et aussi sur le secteur de Perona, avec les jeunes de 11 à 18 ans.
Aujourd'hui, c'est quoi le but de ces activités ici à la Croix-Blanche ?
Alors, du coup, on a déposé un projet en tout début d'année. Le but étant, en fait, de réaliser des actions sur le territoire de la Croix-Blanche. On a d'abord posé un peu des questions aux habitants, de savoir ce qu'ils aimeraient bien, du coup, mettre en place, ce qui leur plairait. Et en fait, par le biais d'actions culturelles, nous, ça nous permet de rentrer en contact avec les familles, les jeunes, de faire remonter les éventuelles demandes et puis du coup d'avoir vraiment du lien sur le territoire et sur le quartier.
Et donc là, pour le moment, c'est quoi le bilan de ces initiatives ?
Eh bah, ben, pour l'instant, c'est super. Après, on n'a pas assez de recul pour voir, mais en tout cas, ça plaît, ça marche très très bien, très fortement. Et on va voir, on va faire un bilan pour continuer l'année prochaine, du coup, pour voir comment ça se passe aussi derrière. Mais en tout cas, ça plaît énormément. On a eu beaucoup de retours positifs. On peut prévoir aussi l'été, anticiper un petit peu ce qui va se passer sur cet été, du coup, auprès des jeunes. Ça leur permet aussi de nous connaître, nous. Donc, en fait, ils vont plus facilement nous solliciter sur le territoire quand ils nous croisent. Et du coup, nous, c'est tout bénef. Enfin, on a vraiment gagné pas mal de choses, du coup, sur le quartier. Et c'est super intéressant, quoi.
Je m'appelle Simon de l'association 98 décibels et du coup on est sur un projet en partenariat avec la prévention spécialisée de Bourg-en-Bresse. L'idée c'est de redynamiser le quartier par divers événements culturels et autres, parce qu'aujourd'hui on a même une ferme pédagogique. On a relevé un peu les demandes et on a eu notamment beaucoup de demandes d'animaux. Donc on a trouvé une solution pour avoir une ferme pédagogique aujourd'hui. Puis on va avoir un gros événement le 13 juin où là du coup il va y avoir une brocante Emmaüs, il va y avoir... des exposants, aussi bien nourriture que bijoux, des ateliers vidéo également, enfin voilà, plein de choses sur une grosse journée. Donc à la base, c'était censé être un gros événement qu'on a décidé de démultiplier en plein de petits en raison des restrictions sanitaires, mais aussi en se disant que c'était pas mal de pouvoir dynamiser à plusieurs périodes de l'année. Normalement, un gros rendez-vous au mois de septembre, si on peut accueillir du monde et puis faire un concert notamment, parce que c'était quand même l'objectif de base. Du coup, c'est plutôt bien lancé, on a eu beaucoup de monde sur les premiers événements. Et puis plus ça va, plus il y a de monde, donc la démarche se met bien en route.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Et on se retrouve lundi prochain à 18h avec une émission sur les élections régionales. Bonne semaine sur nos ondes.
Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, ça va être qu'on va être à la retraite.
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Radondi.